VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Incertitude se met en cause en Afrique du Sud où la crise provoquée par les refus répétés du président Jacob Zuma de démissionner et les atermoiements de son parti, l'ANC au pouvoir, bat son plein. Situation compliquée par la décision de l'ANC de repousser à la dernière minute le conclave de la plus haute instance du parti prévu aujourd'hui, qui était censé sceller le sort du chef de l'État. La réunion a été reportée au 17 février en raison de discussions fructueuses hier entre les deux principaux acteurs de la crise, le président Zuma et son possible successeur Cyril Ramaphosa, selon l'ANC. La présidente du Parlement, Baleka Mbete, a appelé aujourd'hui les Sud-Africains à la patience. Il n'y a pas besoin de paniquer, a assuré de son côté le secrétaire général de l'ANC, Ace Magashule. Nous allons gérer ce problème avec la responsabilité qui s'impose, a-t-il ajouté. La question épineuse d'un départ anticipé du président Zuma, dont le mandat expire en 2019 et qui est empêtré dans des scandales de corruption, empoisonne l'ANC depuis l'élection en décembre de son nouveau chef, Cyril Ramaphosa, qui s'est fait le chantre de la lutte anticorruption. Au Kenya, un opposant kenyan accusé de trahison a été placé mardi soir par la police dans un vol à destination du Canada, alors qu'un juge avait ordonné qu'il soit présenté devant un tribunal de Nairobi ce mercredi matin. Homme politique n'occupant aucun poste officiel au sein de l'opposition, Miguna Miguna, qui dispose des nationalités kenyanes et canadiennes, a été propulsé sur le devant de la scène politique depuis sa participation à l'investiture symbolique du chef de l'opposition Raila Odinga le 30 janvier. Il était l'un des trois membres de l'opposition arrêté pour avoir participé à cet événement. La police a relâché les deux autres opposants, deux députés, mais un d'entre eux a aussi été inculpé de trahison. Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, des scènes de violence ont été signalées dans le pays depuis les élections locales du 4 février. Et à Kelinko, dans Dingirigaï, à 500 km de Conakry, 5 bébés ont péri dans un incendie provoqué par des manifestants. Le gouvernement déplore ces violences et appelle au calme. Précision de notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
C'est le ministre de l'administration et de la décentralisation qui fait l'annonce à la télévision nationale. Ce sont des agitateurs politiques, a-t-il précisé. Le général Bourima Kondé hésite un instant, ensuite donne le bilan des violences à Dingirai.
L'information n'est pas facile à donner,
avertit le général ministre, avant d'ajouter qu'il s'agit de manifestants qui ont mis le feu aux cases à l'aide d'essence. 5 nourrissons sont morts, c'est le bilan le plus lourd depuis le début des violences post-électorales. Des violences, il y en a eu à Kindia, à Dabola au centre du pays, mais aussi dans la capitale où des policiers ont été blessés, leurs véhicules incendiés. Notre pays n'a pas besoin de violence, regrette le ministre Bourima Kondé qui tente enfin de calmer. En matière électorale, il y a le volet contentieux. Faut-il encore attendre que les résultats soient connus, précise-t-il. Les derniers mots du ministre s'adressent aux candidats dont certains n'ont pas hésité à annoncer dans les médias la victoire de leur liste. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Au Togo, les 10 étudiants interpellés mardi à Lomé restent en détention. Les intéressés tentaient de se rendre sur le campus de l'université pour une assemblée générale. Yacouba Ouedraogo.
Folie Sativi, président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, fait partie des étudiants interpellés. Il avait été arrêté en juin 2017 et condamné à 12 mois de prison avec sursis lors de manifestations sur le campus universitaire de Lomé. Quand les étudiants, avec des frondes, des lance-pierres et des bidons d'acide, se préparent à s'en prendre à la police universitaire et à semer l'anarchie, nous devons agir, a déclaré Dodzi Komla Kokoroko, président de l'université de Lomé. Il a confirmé que les étudiants arrêtés ont été remis à la police judiciaire. La Ligue des droits des étudiants a appelé à des assemblées générales mardi, mercredi et jeudi sur le campus de Lomé. Les étudiants se plaignent, entre autres, de l'insuffisance du nombre de salles de cours, l'absence de laboratoires dans les départements de langue et à la faculté des sciences. Ils protestent aussi contre la hausse des frais de scolarité à 176 000 francs CFA en master's et 301 000 francs CFA pour le doctorat contre 22 500 francs CFA auparavant.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, 101 ex-combattants ont été intégrés dans les rangs des forces armées centrafricaines au terme d'une formation de 3 mois assurée par l'EITM, la mission technique de l'Union européenne à Bangui. La cérémonie, qui a eu lieu en présence du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, entre dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration des ex-combattants. Félix Yepassizembo a joint Jean-Willy Birosako, le coordonnateur du processus du DDR, à la présidence de la République.
Il a été prévu de commencer par un projet pilote qui devrait nous permettre de prendre en charge près de 480 éléments de groupe armé, dont la moitié, c'est-à-dire 240, seraient intégrés dans les forces armées centrafricaines après leur formation. Et les 101 dont la cérémonie de sortie a été présidée par le chef de l'État font partie de ce premier contingent qui a été formé par l'EITR et qui sera suivi par un autre groupe qui en attente, qui est composé de 139 éléments environ pour faire un total de 240 éléments.
La formation est-elle une condition sine qua non au programme du DDR?
Affirmatif, qu'il s'agisse du programme d'intégration dans les forces de défense et de sécurité, parce qu'il ne s'agira pas seulement des FACA, mais également de la gendarmerie, de la police, éventuellement des eaux et forêts, de la douane, eh bien, il faut que les éléments qui doivent être préparés à leur entrée dans une activité productive pour le pays puissent être effectivement formés à travers des activités génératrices de revenus, à travers des formations professionnelles. Dans tous les cas, il faut les préparer. Toute activité du DDR va commencer par un programme de formation de tous ces éléments qui seront sélectionnés.
Maintenant, qu'en est-il des autres groupes armés qui n'ont pas encore intégré le processus? Avez-vous un appel à leur endroit?
Le chef de l'État, il a lancé cet appel en direction des groupes qui hésitent encore à regagner le DDR pour dire que c'est vraiment la voie la meilleure pour sortir des cadres de la violence, des cadres des marginaux, pour entrer dans la société, reprendre vraiment leur place dans la société et contribuer au développement de leur pays. Tous ceux qui hésitent encore, heureusement, il n'y en a pas beaucoup dans ce qui concerne les groupes armés qui n'ont pas décidé d'intégrer le DDR. Donc, nous allons continuer les campagnes de sensibilisation en leur direction. Nous sommes renforcés en cela par le panel de l'initiative africaine pour nous appuyer, pour faire comprendre à tout cela que c'est vers le retour vers la paix, le retour vers la cohésion sociale qui doit être l'avenir de tous et qui doit encourager tous les responsables des groupes à soutenir les efforts qui sont actuellement menés.
Jean-Willy Birosako, ministre conseiller, coordonnateur du processus du DDRR à la présidence de la République centrafricaine. Au Tchad, l'agitation sociale persiste dans le pays et le secteur public est en grève illimitée. Le gouvernement a interdit toute manifestation et lancé une sévère mise en garde aux partis politiques et associations qui voudraient passer outre. Le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir, a averti que tout parti ou association qui tenterait de défier l'autorité de l'État verrait ses activités purement et simplement suspendues. Actualité américaine pour terminer, le Congrès des États-Unis va tenter d'adopter d'ici à demain jeudi une cinquième mesure temporaire de financement de l'État fédéral, faute de compromis avec l'opposition démocrate pour un budget annuel. Malgré l'adoption hier soir d'une autre mesure temporaire à la Chambre des représentants, le spectre d'un shutdown, la fermeture des administrations fédérales, plane toujours sur la capitale. Abdourahmane Dia.
L'année budgétaire a commencé le 1er octobre dernier, mais les parlementaires se sont montrés incapables de s'entendre sur le montant et la ventilation des dépenses fédérales pour toute l'année. Le Congrès finance donc depuis toute l'administration fédérale, quelques semaines à la fois, au même rythme que la période précédente, sans pouvoir faire adopter les réformes de fonds voulues par l'administration Trump. En échange de l'augmentation forte du budget de la défense, la minorité démocrate exige que le reste des dépenses intérieures connaissent une hausse équivalente. Elle utilise également l'échéance pour tenter d'arracher la régularisation des centaines de milliers de jeunes sans-papiers, jusqu'à présent en vain. Les républicains peuvent passer le texte à la Chambre des représentants avec moins de difficultés, mais au Sénat, les démocrates disposent d'une minorité de blocage. Si le Congrès ne vote pas de crédit de fonctionnement d'ici jeudi minuit, l'État fédéral doit fermer et renvoyer chez eux les fonctionnaires jugés non essentiels. C'était déjà le cas pendant 3 jours en janvier. Le président Trump a déclaré qu'il préfère une fermeture du gouvernement s'il n'y a pas d'accord sur l'immigration.
Merci de votre attention.